Chapitre 57. Sur les 6 entreprises proposant des services de serrurerie déjà approchées, une seule avait son rideau baissé. 2 étaient tenues par un unique artisan au fond d'un local poussiéreux et encombré qui ressemblait plus à un garage qu'autre chose. Les 3 autres salariés, entre 5 et 10 personnes, dont la plupart se trouvaient alors en intervention. Les flics avaient fait des vérifications administratives, avaient consulté les carnets de comptabilité et posé des questions. Qui portait la barbe parmi le personnel? Qui avait une taille moyenne, une morphologie plutôt svelte? Des employés avaient-ils démissionné ces dernières années? Jusque-là, rien de probant. Il ne restait plus que 4 établissements dans le 9e, et les policiers de la brigade criminelle commençaient à perdre espoir. Leur excitation du début laissait place à la lassitude. Serge râlait, comme à son habitude, enchaînant les cigarettes pour se calmer les nerfs. Il toussait de plus en plus au fil des heures, pareil à une vieille locomotive à vapeur épuisée. Franck éprouvait de la peine pour lui, à le voir ainsi s'étouffer dans ses sécrétions. Rue Victor Massé, à proximité du métro Pigalle, Santucci se gara sur une zone de livraison, le badge en évidence sur le tableau de bord. Les 3 hommes sortirent et s'orientèrent vers une serrurerie, vitrerie, cordonnerie, coincée entre une brasserie et un immeuble haussmannien. Une grosse inscription orangée, serrurerie Flamin, habillait une façade vert bouteille surchargée d'indications fourre-tout. Devis gratuits, blindage de porte, dépannage 7 jours sur 7, badge magnétique, rideau métallique. Un bruit de clochette retentit lorsqu'ils entrèrent avec prudence les uns derrière les autres. Ils scrutèrent l'intérieur de la boutique à l'image de l'extérieur, bordélique. Des cadenas partout, des clés par milliers et de toutes les formes, suspendues à des tiges en fer, des coffres forts entassés. Ça sentait le cuir, le cirage, la ferraille. Un gars d'une 60aine d'années ferrait des semelles sur un établi. Une femme confectionnait une plaque d'immatriculation. Au fond, celui qui devait être le patron, la 50aine, papotait au téléphone et épinglait en même temps des morceaux de papier sur un grand planning mural. Il finit par raccrocher et les considéra d'un œil interrogateur. Son crâne chauve luisait sous les néons. Santucci montra sa carte. Le silence s'était soudain répandu dans le magasin. « Nous faisons le tour des serrureries du coin, » expliqua le Corse. « Nous recherchons un homme qui est potentiellement l'un de vos employés. Combien de personnes travaillent ici, monsieur... Flamin, comme sur l'enseigne. Actuellement, 9, dont 7 qui sont en intervention. Il y a beaucoup de cambriolages en période de fête. Nous savons de sources sûres que notre individu s'est déplacé au 8 rue de Navarin, à quelques centaines de mètres d'ici, en juillet 1988. Juillet 88 ? Ça fait un bail. Vous pourriez vérifier dans vos registres de comptabilité ? Nous possédons aussi d'autres adresses où il s'est rendu. Rue Sampay et rue Eugène Varlin dans le 10e, rue Custine dans le 18e. On sait que vous couvrez ces arrondissements car vous êtes inscrit dans les pages jaunes de chacun d'eux. Vous tenez un listing de l'ensemble de vos clients, parce que nous avons également des noms, si c'est plus pratique. J'ai ces informations dans l'arrière-boutique, oui. Enfin, normalement. Très bien. Mais avant que vous alliez voir, histoire de gagner du temps, est-ce que parmi vos salariés, quelqu'un porte la barbe? Assez longue, noire. L'homme qui nous intéresse doit avoir entre 25 et 35 ans, taille moyenne, plutôt mince, éventuellement une casquette et des lunettes. Son interlocuteur fronça les sourcils, marqua une hésitation. Je reviens. Il disparut derrière un rideau de lanière en plastique. Serge trépigna d'impatience. Vous avez vu sa tête? Ça lui a dit quelque chose. On est bon cette fois. Putain, ça serait trop beau. Franck aussi voulait y croire. Dans leur dos, le travail avait repris. Le maillet du cordonnier battait le fer. La femme actionnait sa presse. Le patron réapparut au bout de 5 minutes, un gros classeur gris et un autre plus fin, rouge, entre les mains. Il leur tendit ce dernier. « J'envisage de m'équiper d'un ordinateur l'année prochaine. Ça me simplifiera la tâche et ça sera l'occasion de mettre à jour mes fiches clients, parce qu'il doit bien y en avoir un tiers d'obsolètes là-dedans. Enfin, voici toutes les personnes chez qui on est intervenu au moins une fois. Vous pouvez y jeter un œil. » Tout en poursuivant ses explications, il ouvrit ses archives, en tourna quelques pages. « Sur 10 ans, on n'a pas chômé. On dénombre plus de 1500 clients. Ils sont rangés par ordre alphabétique. Je fouille dans la comptabilité de mon côté pour juillet 88. Rue de Navarin, vous avez dit ? Oui, au nom de Martinage. » Santucci feuilleta les documents, se rendit à l'intercalaire indiquant la lettre M. Ce qu'il espérait lui sauta à la figure dès la première page. « Elle y est. Catherine Martinage, 8 rue de Navarin. » Amandier s'était collé à lui. Le Corse fébrile se précipita sur la lettre V. En quelques secondes, il tomba sur Philippe Vasquez. Le chef de groupe abandonna le classeur à son collègue et s'approcha du patron. On a notre confirmation, notre individu est bien l'un de vos employés. » Le chef d'entreprise acquiesça, l'air grave, et posa son index sur une ligne de son registre. « J'en ai l'impression. J'ai ici votre facture, 16 juillet 1988. Catherine Martinage. » Les flics se tenaient à présent devant lui, telle une meute de chiens fébriles. Il poussa un soupir. « Le serrurier qui s'est déplacé s'appelle David Merlin. Je n'en reviens pas. » Le nom était lâché. Cette forme qu'il traquait depuis des semaines, cette ombre insaisissable qui se jouait d'eux, avait désormais une identité. « Vous avez une photo de lui ?»« Non, désolé. Dites-nous tout ce que vous savez sur lui. » Le patron garda un instant le silence, visiblement bouleversé. « Il a un peu plus de 30 ans, barbe noire, physique très fin, cheveux noirs et courts, lunettes à grosse monture et casquette vissée sur la tête en permanence. Je le surnommais Houdini. Vous voyez qui c'est ?» Les flics échangèrent un regard de connivence. « On voit, oui. Mais vous parlez au passé. Il ne travaille plus pour vous ?»« Non, ça doit faire 2 ans. David Merlin était capable d'ouvrir n'importe quelle serrure, même des cadenas à numéros ou des coffres-forts. Il était fasciné par ses mécanismes. Un gars incroyable. C'est pour ça que j'aurais aimé l'embaucher en CDI. » Un type comme lui vaut de l'or, mais il préférait que... Enfin, il travaillait ici juste de temps en temps. Il se pointait, demandait si j'avais du boulot pour lui. On s'arrangeait, quoi. Vous êtes en train de me raconter que vous l'employez au noir, c'est ça? Pas vraiment, mais il n'y avait pas de contrat strict. Pas de contrat strict. Vous le payiez donc sous le manteau et en liquide, je suppose, non? Son interlocuteur baissa les yeux, les lèvres pincées. On n'est pas là pour mettre le nez dans vos comptes, ajouta Santucci, agacé. On ne va pas vous envoyer la brigade financière non plus. Ce qu'on veut, c'est des infos fiables. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur lui? Ouais, pas grand-chose. Il avait le regard fuyant, il était timide. David Merlin était le garçon le plus discret que j'ai jamais rencontré. Il ne parlait presque pas. Il faisait le taf, vite et bien. Jamais un pas de travers, rien. C'est ça, jamais un pas de travers. J'espère au moins que vous avez son adresse. Et son numéro de téléphone, oui. Il alla chercher un cahier qu'il feuilleta. Nota les renseignements sur un morceau de papier et le tendit au Corse. Voilà. Aux dernières nouvelles, il habitait au 41 avenue de la Porte des Poissonniers, dans le 18e. Un coin où je ne m'installerais même pas si on me filait du fric. Qu'est-ce qui vous certifie que ce n'est pas une adresse bidon? C'est celle qu'il m'a donnée, en tout cas. Et le téléphone, c'est vraiment le sien, je l'ai déjà appelé. S'il n'a pas menti sur ça, il n'y a aucune raison qu'il ait menti sur le reste. Avenue de la Porte des Poissonniers, entre le boulevard périphérique et le quartier de la Goutte d'Or. Ça collait avec toutes leurs pistes. Serge ne tenait plus en place. Il s'engageait déjà vers la sortie, prêt à foncer. Le Corse referma le classeur qui traînait près de lui d'un coup sec. « Vous mettez tout ça de côté, on va revenir. » L'homme acquiesça, encore un peu sonné. « Qu'est-ce qu'il a fait, David ? » ?»« Croyez-moi, il vaut mieux que vous ne sachiez pas. » La clochette tinta de nouveau. 5 secondes plus tard, les flics avaient disparu et la boutique retrouva son calme. Comme si rien ne s'était passé.